Maseret Yoma, résumé du Daf Samer Sain. La Mishnah raconte que les hommes importants de Yerushalayim allaient accompagner celui qui devait envoyer le bouc à Azazel. Il y avait 10 cabanes entre Yerushalayim et l'endroit là-bas, la montagne, où il fallait jeter le bouc. Et la Mishnah donne les mesures précises. Et à chaque fois, on l'accompagnait d'une cabane à l'autre. Donc il y avait des gens à chaque fois qui étaient dans une cabane, qui l'attendaient, qui l'accompagnaient jusqu'à la cabane suivante. Et il lui montrait, voici de la nourriture, voici de l'eau. La Gemara expliquait que c'est pour ne pas qu'il ressente sa faim et sa soif en croyant qu'il n'y a aucun moyen de manger ni de boire ici. Donc au moins, il va s'imaginer que ça va et ça va le calmer. Et donc il aura plus de facilité de supporter le jeûne. Et donc voilà qu'on l'accompagnait jusqu'à presque l'endroit duquel il devait jeter le bouc. Et le dernier qui l'accompagnait, il se tenait de loin, il voyait ce qu'il faisait de loin. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le fil rouge, moitié il l'attachait sur le rocher, moitié entre les cornes du bouc, il le jetait en arrière jusqu'à ce que il se roulait là-bas dans la montagne, et avant même d'arriver à la moitié de la montagne, il était déjà complètement décomposé en membres, en morceaux. Celui qui envoyait le bouc, l'Azazel, il revenait jusqu'à la dernière cabane, il attendait la nuit. Et la Halakha dit que celui qui accompagnait le bouc, il devient tamé, lui et les vêtements qu'il porte, depuis quand? Machloket, soit depuis qu'il sort de Yerushalayim, soit depuis qu'il a jeté là-bas au ravin. La Gemara ramène quelques avis à propos du nombre de cabanes qu'il y avait depuis Yerushalayim jusqu'au ravin, soit 10, soit 10 soukot pour 12 milim, qui fait à peu près 12 kilomètres. 10 millim, soit 5 soukot pour 10 millim, et donc il pouvait l'accompagner en faisant un eruv troumin, et donc il pouvait marcher d'une souka à l'autre, même 2 millim, qui est le double de 2000 amot, en laissant un eruv troumin qui leur permet de marcher en dehors du troum de Shabbat et de Kippour. La Gemara explique la raison pour laquelle il fallait attacher moitié sur le rocher et moitié entre les cornes du bouc, le fil rouge. Il fallait sur le rocher, parce que s'il ne le faisait que sur le bouc il risquait de se plier, donc on ne verrait pas si le fil rouge a blanchi. Et donc il fallait laisser moitié sur le rocher de manière à voir que ça a blanchi, mais le faire entièrement sur le rocher on ne peut pas non plus, parce qu'il risque de l'attacher complètement sur le rocher et que ça blanchisse immédiatement. Et lui, dans sa joie, il ne va pas faire attention de jeter le bouc. Et donc il faut d'abord moitié sur le rocher, moitié entre les cornes, et tant qu'il s'occupe du bouc à lui attacher sur les cornes, même si ça blanchit, puisqu'il l'a encore entre les mains, il va le jeter. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, au début, il faisait le fil rouge à l'entrée du Oulam, dans le Beth Amikdash, de l'extérieur, et tout le monde voyait. Si ça blanchissait, ils étaient contents, sinon ils étaient tristes, ils avaient honte. Donc on l'attachait de l'intérieur, et encore les gens y regardaient, ils rentraient pour regarder, et voir si ça blanchissait ou pas, et donc finalement, si oui, ils étaient contents, sinon ils étaient tristes. Donc le Bedin a institué d'attacher le fil rouge que là-bas dans le désert, entre les cornes du bouc et sur le rocher, de manière à ce que pas tout le monde ne voit si ça blanchit ou pas. À l'époque, on faisait dans le Echal, dans le Oulam, ça servait aussi de siman pour savoir reconnaître que le bouc est arrivé déjà dans le désert et qu'on pouvait continuer la avoda, puisqu'on voyait le fil rouge blanchir. La Gemara dit, le bouc, donc, il était jeté là-bas dans la montagne et il se déchirait complètement en morceaux. Est-ce que ses membres étaient permis? On pouvait en profiter, oui ou non? Celui qui les trouve, il a le droit d'en profiter ou pas? La Gemara ramène là-dessus une machloquette et conclut que certaines... Bon, la Gemara, elle ramène aussi toutes les drachot dont on apprend que oui, que non. Et la Gemara conclut en disant que certainement, c'est permis, parce que sinon, celui qui va les prendre, il saura pas. Il saura pas d'où ça vient. Il risque d'en profiter sans savoir qu'il est en train maintenant de profiter de quelque chose qui est interdit. Or, il n'est pas possible que la Torah dise d'envoyer un bouc, alors que finalement, ce sera un obstacle pour ceux qui ne savent pas qu'il est interdit. Donc, certainement, il est permis. La Gemara dit, donc, on apprend les psukim. Ça s'appelle Eretz Gezera. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Gezera? Qui veut dire, c'est un ravin. Soit il est déchiré complètement, ça veut dire il est très raide, soit c'est une gzera, c'est un décret d'Hachem. Tu ne comprends pas en quoi ça fait une capara, mais c'est comme ça. Ne pense pas, ne te laisse pas à des pensées de dire à quoi sert cette mitzvah, on ne la comprend pas, ça ne sert à rien. La Gemara dit encore d'autres explications sur le mot Azazel. Soit le Moazazel fait allusion au fait qu'il est az, il est fort, elle qui veut dire aussi fort, donc c'est un endroit très dur, soit ça vient pardonner des averot de Gilui Arayot, et la Gemara ramène qu'il y avait des anges qui étaient tombés du ciel, qui ont fauté dans les premières générations de l'histoire, et ils s'appelaient comme ça, leur nom ressemblait à Azazel, et donc c'est pour ça que ça fait allusion à la capara de ces averot. La Gemara dit encore, le pasuk dit, vous devez garder mes lois, Mishpataim et Mishpatim. Les Mishpatim de la Torah font allusion aux mitzvot qui sont raisonnables. De toute façon, il aurait fallu les dire, comme Avodah Zara, Gilui Ariot, Shfichut Damim, le vol et d'autres mitzvot qui sont évidentes. Il y a des lois qui ne sont pas évidentes, au contraire, on a du mal à les comprendre, qui sont le porc, ne pas le manger, le chatnez, mélange de lin et de laine, pourquoi pas, la Khalitsa, et d'autres mitzvot encore, dont par exemple, justement le Sahir, Sahir et Mishtalach, le Sahir et la Zazel. Et la Torah termine en disant, Ani Hashem, c'est moi qui ai gravé ces mitzvot-là, tu n'as pas le droit de te poser des questions dessus, de t'étonner dessus. La Gemara ramène encore une machloquette, depuis quand il devient tamé celui qui jetait le bouc, soit depuis qu'il sortait de la Hazara, depuis qu'il sortait de Yerushalayim, soit quand il arrivait là-bas à l'endroit où il fallait le jeter, soit, selon Rabbi Shimon, dès qu'il le jetait, il devenait tamé. Mishnah suivante, le Kohen Gadol revenait maintenant à son taureau et le bouc, le Sahir et la Shem, on a déjà terminé toutes les matanotes du sang qu'il fallait faire. Maintenant, il fallait s'occuper du corps du taureau et du bouc eux-mêmes. Donc d'abord, il est déchiré, il sortait les organes qu'il fallait brûler au Misbéach. Ensuite, donc il les mettait sur le plateau pour les préparer à les brûler ensuite au Misbéach quand il faudra. Et il les tressait. Il faisait une sorte de natte, de tresser le corps du taureau avec le corps du bouc pour les sortir, aller brûler en dehors du camp, en dehors de la ville. Depuis quand ceux qui s'occupent de sortir le taureau et le bouc deviennent tamés? Depuis qu'ils les sortent de la Hazara. Selon Rabbi Shimon, à partir du moment où le feu a brûlé la majorité de leur corps, c'est là où il devient tamé. Mais avant ça, même s'il est déjà sorti de la Hazara, il est encore tahor selon Rabbi Shimon.